Et nous revenons avec. On va reprendre ce que disait Koum, car il n'avait pas
Ouais,
terminé.
j'avais deux, trois trucs à dire.
Le système d'expérience de Détroit,
Voilà,
s'il te
parce
plaît.
que je rebondissais donc sur ce que disait Callisto sur les indices. En disant que dans ce genre d'ambiance de jeu d'enquête. En fait, c'est pas vraiment des jeux d'enquête, c'est des jeux de policiers,
C'est
mais.
le jeu de conflit.
Ouais.
Enfin,
Et en
petit
fait,
Smallville, peut-être même pour.
les indices finalement sont pas si importants. Et donc, je prenais l'exemple de Détroit.
L'enquête est du background.
C'est ça, parce que par exemple, donc dans Détroit, ton système d'expérience, c'est
Le
tu as
jeu
le droit
de
de poser une
sélection.
question au MJ. Et là, une question fermée, donc oui, réponse oui ou non. Mais c'est la question, c'est ce que tu veux. Et il donne comme exemple, c'est ça qui m'a convaincu dans son document. Qu'est-ce qui se passe si les joueurs disent, ok, est-ce que c'est John Belmont qui a fait le coup? Alors le MJ regarde son scénar, bah, John Belmont, il dit oui. C'est lui le coupable. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le joueur, donc qui sont des flics, hein, comment tu le transposes dans l'univers de jeu, c'est en fait ton instinct de flic te dit, non mais là, je suis sûr, c'est John Malone qui a fait le coup. Je sais pas encore pourquoi, j'ai
Je
pas
sais pas
encore tout,
comment.
je sais pas comment, mais c'est sûr. Je veux dire, quand je l'ai vu en garde à vue, j'ai senti que c'était lui et tout.
Mais c'est
Et
intéressant parce que tu
maintenant,
restes libre
c'est ça.
de choisir par
Et
lequel
maintenant,
moyen
je vais
tu vas
faire,
rester
voilà. Et
dans le
maintenant,
scénar en fait.
je vais faire tout ce que je peux pour.
Pour le faire
Alors,
tomber.
d'un point de vue extérieur, le joueur sait que c'est lui le coupable, donc il n'a pas à aller la chercher. Mais par contre, maintenant, il va falloir réussir à le prouver, parce qu'on reste quand même dans un jeu de flic plus ou moins réaliste. Ça, tu peux pas sortir ton épée plus 5 et aller le buter. Non, non, il faut que tu trouves les preuves. Il faut que ça convainque tes chefs. Il faut que lui-même,
Fasse une erreur.
voilà, fasse une erreur, ne parvienne pas à se dépatouiller du truc en achetant le juge ou un truc comme ça.
Et est-ce que le méchant expérimenté a un équivalent? Est-ce qu'il a un nombre genre d'entourloupes, un nombre d'esquives, un truc
Non, a
qui
priori,
permettrait de.
c'est pas aussi,
Moi,
aussi
je trouve ça
codifié que ça.
vachement intéressant comme idée.
Et finalement, bon, moi, j'ai encore une fois, ça existait, enfin, cette idée-là ne m'était pas venue en tête forcément en 2012, mais finalement, le système d'indices, c'était un peu ça, c'est-à-dire qu'au final, bah, on savait plus ou moins qui avait fait le coup à chaque fois, ou alors on le trouvait assez rapidement, parce que ce qui était important, c'était pas de savoir que c'était les frères O'Reilly qui avaient fait le coup, ce qui était important, c'était plutôt que les frères O'Reilly, c'était des potes d'enfance de Shane Kelly, et qu'en plus, ils faisaient tous les deux partie du quartier irlandais, que les Irlandais, ils se serrent les coudes, alors si tu vas arrêter les frères O'Reilly, t'as toute la communauté derrière toi qui va dire, mais Shane, c'est un pourri,
Et le maire ne sera pas d'accord.
voilà, et en plus, le maire ne sera pas d'accord, enfin, tout un tas de trucs comme ça. Et du coup, c'est assez intéressant, effectivement, aussi de concevoir des enquêtes sous cette forme-là.
Mais si je comprends bien, en fait, Cédric Ferrand, t'as piqué ton idée, c'est un sale voleur, en fait.
Non, enfin, oui, peut-être, je ne sais pas.
Peut
En fait,
peut-être lui
non,
envoyer
en fait,
quelques
alors,
amis albanais
il
pour lui
faut.
péter les deux genoux, non?
Alors, ce qu'il faut, ça,
Ou
c'est.
un imprimeur polonais, si tu veux.
J'aurais pas.
Ouais, on peut lui envoyer un stagiaire roumain aussi.
J'aurais pas la prétention de dire qu'il m'a piqué mes idées, mais lui-même avait essayé de faire un jeu d'enquête qui s'appelait. Enfin, un système d'enquête qui s'appelait Comme un aimant pour faire des enquêtes qui se passaient à Marseille, etc. Enfin, bref.
Oui,
Et
chanson
pareil,
variable.
c'était un peu tombé dans l'oubli, et en fait, je sais plus pourquoi j'étais venu le
Et
titiller
après, elle a
là-dessus.
fait une version qui se passe dans les îles qui s'appelle Comme un ouragan.
Tu veux dire sur un rocher, tu veux dire?
Oui, voilà, c'est
C'est
ça.
ça,
Et
ouais.
voilà, et je sais qu'il avait donc en fait Détroit, il l'a posté sur le forum de Casus en disant voilà, si je le poste, je serai obligé de le finir parce que mon honneur est en jeu. Et là, en parlant sur Radio Olive, son honneur est encore plus en jeu, donc c'est vraiment pour l'obliger à le finir parce que moi, j'ai vraiment très très envie de lire ce jeu et de jouer à ce jeu. Parce que je trouve que c'est vraiment une vision du jeu d'enquête qui manque un petit peu. Enfin, moi, ça m'a vachement surpris à l'époque quand je m'étais dit je vais faire The Way en jeu de rôle de rien trouver là-dessus. Parce que c'est. Alors, certes, c'est difficile, c'est plus difficile que le jeu d'enquête traditionnel. Mais c'est vraiment, je pense, une espèce de crossover entre un jeu comme L'Appel de Cthulhu qui est très enquête.
Mais en
Et
plus,
puis.
s'il réussit pas à faire en sorte que l'année prochaine, à la même période, on fasse pas la critique de ce jeu-là, son honneur sera définitivement bafoué, quoi.
Ah
Ça
oui,
sera un
non,
échec absolument total.
je pense qu'on fera du coup une émission où on fera que rire de lui pendant 1 heure.
Ouais, je pense que c'est
du
une bonne idée.
rebashing.
Ouais,
C'est
ça me
ça.
paraît pas mal.
C'est ça. Voilà ce que j'avais à dire à peu près sur ce sujet.
Très
Merci.
bien,
Merci, monsieur.
merci beaucoup.
Et c'est maintenant Callisto qui reprend la main.
Oh, magnifique reprise
magnifique
de volée.
Magnifique reprise de plein vol. À quand une adaptation de... Michael, pourrais-tu nous proposer bientôt une adaptation, je sais pas moi, un jeu de rôle d'un match de foot.
Et Callisto qui joue pour l'équipe de Florence et qui prend la balle et qui...
L'équipe d'Influenza, ouais, pour être
voilà,
précis.
Voilà,
c'est ça.
Une petite chronique d'Influenza, effectivement. Alors, Influenza, en fait, je l'avais depuis le mois dernier, depuis quelques jours, avant le numéro 34, mais comme c'était un petit peu gros, 300 pages, j'ai pas voulu torcher l'affaire, donc je l'ai gardé pour cette fois-ci, et voilà. Depuis, il y a eu pas mal de buzz, on a vu passer pas mal de petits... La cellule en a parlé, Thomas Munier a continué, je crois, à poster pas mal de podcasts sur ce jeu. Oui, donc Thomas Munier en est l'auteur, qu'on peut connaître aussi sous le nom de Pika Toulou, très impliqué sur le forum Terres étranges.
Si sur la scène indé.
Ouais, non, outsider même, on peut le dire, oui, hein, puisque c'est le nom de son blog. Alors, je vais commencer déjà par de quoi que ça cause. C'est un story game pour jouer de l'horreur épique dans l'univers forestier de Milvaux. Alors, tous ceux qui écoutent un petit peu ont déjà entendu 20 fois cette formulation-là. En centrant le jeu sur les personnages et leur évolution en tant que héros, martyrs et salauds. Après un cataclysme, en gros, il y a une immense forêt qui va recouvrir l'Europe et le surnaturel, issu de l'inconscient collectif, y est très présent, peuplant les boîtes cauchemars, de créatures corrompues et d'hommes dotés de pouvoir. En fait, ça, c'est un petit peu l'influence de Choubnigorath. Le copain d'un Toulou, hein.
Oui,
les chèvres, mille chevreaux, tout ça.
Avec les chèvres qui jouent de la flûte et tout.
Voilà. Par exemple. Pour ajouter à la confusion, en fait, la mémoire des gens est limitée à 3 ans. Donc, en gros, tous les codes moraux, les savoir-faire, tout a volé en éclats, et à part quelques petites résurgences scientifiques, on est plutôt dans une espèce de cadre médiéval. Alors, ce jeu, le premier truc qui m'a épaté, c'est que j'ai jamais vu autant de formats de diffusion proposés. Moi, ma chronique est basée sur la version PDF sans illustration, qui est gratuite. Il existe une version illustrée en PDF, hein, qui est donc en Pay What You Want, elle fait donc 350 pages. Il y a de l'impression à la demande. Il y a une version minor, qui est donc la version sans le background, pour ceux qui ont déjà mis le Milvaux en version sombre. Et la version donc complète incluant le background si vous n'avez pas mis votre son, vous ne voulez pas l'acquérir. Et il y a même la version livre fait main directement par l'auteur.
C'est lui qui a dit couper et tout.
C'est ça. Bon, d'ailleurs, pour le moment, bon, il avait l'air de dire que c'était assez roots pour le moment, mais oui, que si tout le monde en demande, du coup, il va y avoir un petit goulot d'étranglement, donc il va falloir attendre. Mais ouais, je trouve ça extrêmement sympa. Et comme je disais, voilà, j'ai jamais vu autant de formats proposés. Il teste vraiment tous les formats économiques. Je trouve ça très intéressant comme démarche, quoi. Mais bon, comme il est à fond dans cette démarche d'auto-édition.
Il pourrait peut-être essayer de proposer une version sur tablette de pierre.
Bah, ou sur
écorce. À la main, livraison sous 3 ans.
Oui, ou sous écorce de bois. Ou...
Ouais, ouais.
Ah, ça, mais, moi, j'aimerais bien une version où l'auteur vient chez toi pour te raconter le jeu.
Mais, ça, t'as eu ça dans je sais pas combien de Kickstarter où t'avais le truc, ouais, du style alors si tu me payes, je sais pas combien, je traverse le monde pour venir faire et pour jouer une partie
non,
chez toi.
Non, mais là, quoi. Le truc, c'est que du coup, quand tu joues, t'es en pleine partie, puis t'as. Je dis merde, attends, c'est comment déjà la règle de...
J'invoque l'auteur.
Alors attends, 0628. Ouais, allô ? Ouais, t'es dans un bar, mais je m'en fous. J'ai juste une question là sur la règle de combat.
Comment ça, t'es pas seul ?
J'ai payé, je m'en fous. Hein. L'auteur à disposition à vie.
Hotline 777 24 24.
Alors, sur ces 300 pages, en
c'est
fait.
L'option relou, ça en fait.
C'est ça.
Les règles vont prendre seulement 36 pages et en fait vont être résumées en 2 pages.
D'accord.
Je vais être large, on va dire, c'est vraiment une page. Et tout le reste, je vais dire, c'est des idées et des possibilités de modulation. Parce que c'est un jeu qui peut être abordé sous différents angles, aussi bien en one-shot qu'en campagne. Et le MJ, qui va être appelé le confident, a un rôle qui est plus ou moins poussé selon que...
Le quoi, pardon ?
Le confident.
Confident.
Confident. Non, pas le confident, le confident. Après Cupidon, le confident.
Je me disais, non, je ne connais pas cet individu.
Non, le confident, je ne sais pas, moi, imagine. Voilà,
d'accord,
le...
oui, très bien, continue, pardon.
Je ne pense pas que ça vienne des émissions de télé-réalité. Genre. Et donc, ce rôle est plus ou moins poussé, en fait, selon qu'on choisit. Il y a deux modes de jeu, en fait, le mode carte rouge ou le mode carte blanche. En mode carte rouge, on va avoir un animateur guide qui va réorienter, recadrer éventuellement pour aller dans l'esprit du jeu. Et en fait, en mode carte blanche, on aura un jeu de rôle, on aura un MJ de à peu près de jeu de rôle classique, quoi, qui organisera les scènes, qui contrôlera le décor, qui aura le fin mot à la fin de chaque scène et des conflits.
Et en mode carte noire, en plus, il te sert le café.
Je pense qu'on va encore une fois pas arriver à la fin de cette chronique.
Mais si, pardon.
Oh là là, c'est pas gagné. Mon pauvre Kael, à chaque fois, ça tombe sur toi.
Je trouve que, voilà, mais bon, on va dire que je fais des chroniques. Mais c'est le jeu de rôle participatif, ça.
Tu devrais. Ça.
Chacun apporte tes idées. Qu'est-ce que tu penses de.
Tu devrais toujours être avec ton fouet nommé Gérard. Je pense que ça te sauverait.
Et de toute façon, j'aurais voulu faire un truc de participatif. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on me fournisse un D12. Dans cette maison de rôliste, on n'est pas capable de me fournir un D12 avec des chiffres.
Ben bah non, moi j'ai mes D12 ouais, de Star Wars.
On a que des D12 Star Wars.
Ouais, c'est beaucoup trop mainstream, attends.
Avec des dessins.
Jaune avec des symboles.
Alors, dans Influenza, un personnage se construit et est défini par des phrases qui elles-mêmes s'articulent autour de 12 thèmes centraux au jeu. Genre la folie, la mémoire, la nature, la corruption, l'amour, la société, la religion, et j'en passe. C'est pour ça qu'on jouera avec des D12, justement. Et, bon, on peut faire une petite variante avec des 2D6, hein, y a pas de souci. C'est pas élitiste. Un personnage en fait va gagner et perdre des nouvelles phrases tout au long du jeu, et il va évoluer directement à l'issue de chaque conflit, en gagnant des nouvelles ou en perdant. Un personnage qui n'a plus de phrases, on dit qu'elles ont été sacrifiées, va devoir quitter l'histoire. Ça veut pas dire qu'il est mort, c'est juste qu'il est out pour le moment, quoi. De même que un qui arriverait à 12 phrases se serait accompli et passerait un petit peu au stade de légende ça peut être sympa aussi. On peut être aussi écarté du jeu si c'est l'enjeu d'un conflit et qu'on a décrété que bah, à la fin tu meurs, point barre, quoi. Il crée alors un nouveau personnage en fonction des phrases sacrifiées de son ancien perso. Donc tu repars pas à zéro. Le premier joueur, qui peut tout à fait être le confident, parce que lui aussi va se créer un personnage, tire un thème aléatoire, donc avec un dé de 12. Par exemple, là moi j'ai tiré aléatoirement un 12 sur ma tablette avec un random dice. Non mais bon, et c'est qu'en plus il vérifie, hein.
Ah oui,
bah ouais.
Je te crois pas, fais voir. Un 12 sur un dé de 12. Putain, un 12 naturel.
Ouais,
wow.
Non, mais j'ai de la chance même avec des informatiques. Et donc du coup, je consulte le tableau des thèmes du jeu et avec un 12, je vais avoir de la chair et on va me suggérer une liste avec combat, sexe, beauté, promiscuité, maladie, putréfaction, mort, bestialité, athlétisme, faim, etc., etc. Et donc, à partir de ces éléments-là, de ce thème que j'ai tiré au hasard et de la notion de volonté qui doit être inclue dans ma phrase. Je vais créer ma première phrase de mon personnage.
Ok. Tu peux donner un exemple?
Bah oui, par exemple, je veux traverser la forêt pour, enfin, je veux aller retrouver la vieille, le vieil hôpital pour perdu loin dans la forêt, pour y trouver un remède contre la putréfaction qui a envahi mon village.
D'accord.
Des gens
d'accord.
qui pourrissent tout ça. Okay. Alors, ça, c'est moi, le premier. Maintenant, Mickaël, c'est ton tour.
Ouais, je lance un 6.
Tu lances un 6 et du coup tu tires société, donc ville, état, morale, féodalité, loi, guerre, etc. Et ta phrase va non seulement devoir exploiter ce thème et la notion de volonté, pas nécessairement la tienne, hein, ça peut être la volonté de quelqu'un d'autre, mais tu vas devoir la lier à ma phrase à moi.
Voilà.
Et ouais.
Ah ouais.
Tu dois bâtir sur ce que j'ai commencé à mettre dans l'histoire.
D'accord.
Donc on retrouve. Eh ben je t'écoute. Alors voilà. Hein.
Alors le village.
Qu'est-ce que veut le village? Est-ce qu'il va dans le même sens que moi? Est-ce que tu vas dans le sens contraire que moi, à moi?
Ah non, il va aller dans le sens contraire, sinon c'est pas drôle.
Voilà. Donc t'es obligé de lier ça soit à la notion de putréfaction, soit à la recherche de l'hôpital, bah je sais pas moi, les gens du village.
Mais justement, ils veulent lutter contre la putréfaction, ils veulent éradiquer ils veulent éradiquer la putréfaction qui grandit.
Mais peut-être que le chef du village ne veut pas qu'on retourne à l'hôpital.
Oui.
Voilà, et du coup, rien qu'en introduisant le personnage du chef de village, ça se trouve, David va devenir le chef du village. Il va se dire, oh, mais il a l'air vachement bien, ce gars qui nous empêche de trouver des solutions à nos problèmes. Je pense que quelqu'un devrait le jouer. Et donc, David, en tirant un je ne sais pas quoi.
Alors, je vais 4. Te dire tout de suite, je tire un 7.
Tu tires un 7, tu es dans le clan, société secrète, tribu, secte, famille, faction, devoir, voix corax, c'est des corbeaux, garous. En fait, un petit peu comme
corbeau-garou,
lignée de confrères, etc.
Chez White
et donc
Wolf,
voilà, ouais. Là tu devrais, pareil, en te basant sur un peu ce que nous on a déjà mis sur le tapis, mm-hmm. Créer ta première phrase. Quoi. Voilà.
D'accord. Donc je fais partie de la même secte que le personnage.
Mais de quelle secte?
Alors non, tu dois mettre la notion de vœu. En fait, la notion de volonté quelque part.
Ah d'accord.
Donc déjà, ouais, pour cette première phrase, on est obligé d'inclure la notion parce que comme ça, on écrit tout simplement une motivation, quoi. Donc peut-être que tu veux retourner à l'hôpital pour y retrouver les trésors de ta secte qui ont été... ou tu veux t'assurer qu'en fait personne ne retrouve ce qu'il y a à l'hôpital, parce que c'est toi qui as donné la consigne, faut pas y aller.
Il y a l'une des chapelles de notre secte dans cet hôpital,
dans la morgue,
et je souhaite y retrouver l'un des objets du culte.
Voilà, par exemple. Bon, on continuerait comme ça, justement, on fait notre premier tour. Et après, en fait.
Ah ouais, donc moi j'ai pas droit, quoi. Mais merci.
Ah,
hein.
Non, allez, comme.
C'est dégueulasse. Alors moi je fais un 2.
Voilà, mémoire. Alors justement, cette fameuse mémoire défaillante.
Je sais plus où il est l'objet du culte, quoi. C'est ça le problème.
Non, mais en rajoutant une notion de volonté, mais ça peut être la généalogie, l'amnésie totale, la vengeance, le témoignage, la croyance, le mensonge. Peut-être que tu savais des choses justement sur l'hôpital, mais sauf que c'était il y a plus de 3 ans.
Je...
Du coup, reboot.
Oui, absolument. Je me souviens d'un rituel mystérieux qu'on peut accomplir grâce à l'objet que David a malencontreusement égaré, mais malheureusement, je me souviens plus non plus du rituel.
Bon, c'est très flou, mais ça donne une idée.
J'aimerais le retrouver.
Voilà, ça montre qu'on peut rapidement bâtir quelque chose en étoffant et en mangeant du pain bruyamment. Et. Arrête, on dirait mes enregistrements de partie.
C'est pas toi qui va faire le montage. Hein.
Une fois qu'on a fait ce petit tour, qui peut donc, pendant la première scène, on présente aussi directement le personnage. Hein. On n'a rien de prédéfini, son nom, son apparence ou quoi que ce soit, ça peut se définir au fil du jeu. On peut approfondir les choses au fil des scènes, en forme de flashbacks, il y a vraiment toutes les possibilités. Le jeu s'organise en une succession de scènes qu'on va appeler des instances, et qui sont narrées par le joueur dont c'est le tour, donc le joueur en instance. Qu'il s'appelle. Ça, c'est en mode carte rouge, donc le mode par défaut du jeu. Sinon, en carte blanche, c'est le confident qui raconte et qui déroule une histoire et qui dit là, il y a un conflit, donc vous faites vos jets, etc.
D'accord.
Chaque instance, elle va se clôturer soit sans conflit, soit avec un conflit simple, donc face à une difficulté externe, soit dans un conflit duel, qui va être un conflit avec un autre PJ. Mm-hmm. Pendant l'instance, le joueur en instance raconte tout ce qui se passe, il ne contredit pas la fiction précédente, logique, il ne peut pas faire agir les autres PJ sans leur accord. Mais il a quand même le contrôle global de la scène, quoi. Les autres joueurs vont gérer leur PJ, et ils peuvent aussi, bien sûr, faire des suggestions. Hein. Si l'instance se clôture calmement, on fait un petit jet de dés, donc on obtient de nouveau un thème, et on gagne une nouvelle phrase. Soit qui va résumer l'instance, ce qui s'est passé dans la scène. Je sais pas, moi, si je tire... si on a fait voyage et que j'ai tiré nature, bon, je peux raconter quelque chose que j'ai glané dans la forêt. Genre, j'ai trouvé des baies particulièrement nutritives dans la forêt. Bon, pourquoi pas, ça peut toujours me servir. Si on arrive dans une situation un peu de suspense, notamment si les actes du personnage pourraient les faire devenir des héros, des salauds ou des martyrs, ce qui est un petit peu l'objet du jeu, on est dans le cas d'un conflit simple, à l'initiative soit du joueur en instance qui va dire tiens, je décide que pendant le trajet vers l'hôpital on tombe sur un ours, ou à la suggestion du confident qui dit attends, c'est un peu trop facile, tu traverses la forêt sans problème, t'arrives à l'hôpital et t'as déjà trouvé la salle secrète. C'est un petit peu c'est un petit peu rapide.
D'accord.
Donc là, dès qu'on a un conflit, on va devoir définir un objectif, donc ce qui se passe si on gagne, et donc un contre-objectif, ce qui se passe si on perd. On peut bien évidemment pas tuer un autre joueur sans son accord, hein, voilà. Le joueur va pouvoir jeter un nombre de dés qui va être égal au nombre de phrases qu'il a qui sont en rapport avec le conflit. Donc si, par exemple, on faisait un conflit dès le début, j'ai qu'une phrase qui sera en rapport avec le conflit, genre je veux aller à l'hôpital, il y a un ours sur le chemin, bon, c'est pas super super, j'ai pas énormément de chances de m'en sortir. Mieux vaut attendre un petit peu de s'étoffer et éventuellement d'avoir plusieurs phrases à sortir, quoi. Alors, si on continuait plus loin, qu'on rencontrait des difficultés, genre le voyage est plus long que prévu, ou le temps, ou des animaux sauvages, ou je sais pas trop quoi, ou on est perdu dans la forêt, là je pourrais utiliser mes fameuses baies que j'aurais gagnées dans un conflit précédent, plus mon envie d'atteindre l'hôpital. Et là, à ce moment-là, j'aurais le droit de jeter 2 dés.
Ok.
À ce stade, on a aussi les joueurs qui peuvent s'allier. Parce que justement, comme les situations sont souvent difficiles...
Donc on combine les phrases et...
Donc on va combiner des phrases, et on peut même s'allier quand on est à distance, puisque un des éléments du jeu, l'égrégore... Donc tout à l'heure, j'ai parlé un peu de l'inconscient qui se propage, et qui fait que les peurs des individus se matérialisent vraiment. Donc en gros, à force d'avoir peur des loups-garous, il y a des loups-garous. À force d'avoir peur des arbres qui marchent, ça va aussi. Et puis, ça va à tel niveau qu'avec des simples mots, on peut tuer, quoi. Si tu définis qu'en fait, en ordonnant de manière très vindicative à quelqu'un qui meurt, il peut tout à fait mourir si tu réussis ton conflit. Voilà, c'est le pouvoir un petit peu de l'égrégore. Et du coup, comme il permet de faire passer un peu les choses à distance, je peux très bien aider David, qui est dans une scène dans laquelle je ne suis pas. Voilà, donc c'est participatif pour tous les gens qui sont autour de la table. pour faire le compte des phrases qui vont s'appliquer à un conflit, si on est dans... Chaque camp va poser un à un ses dés. Si on, admettons, je suis allié avec David contre Michael et Com,
vous allez perdre.
Je vais annoncer ma première phrase.
Cobal. Hein? David, ils connaissent pas les gens.
Ah bon? Ah, tant pour moi. Donc Cobal. Donc Cobal, ouais. Cobal avant Sandé.
Ah ouais, trois fois, non, ça marche pas. C'est Beetlejuice, on dit. Pas Cobal.
Je vais apparaître chez vous directement.
Voilà, donc moi je.
Tu es allié avec Cédric Ferrand.
Je mets en jeu mon envie, moi, d'aller à l'hôpital. Et puis, du coup, David, qui a bien envie. Cobal, du coup, qui a bien envie lui aussi d'aller récupérer son truc secret dans la loge, va aussi mettre son dé. On va constituer comme ça progressivement un petit pool. Si on est en opposition, il y a un petit côté suspense. Parce qu'en fait, c'est. Mais jusqu'où vont-ils aller? Pas plus de 6, on ne peut pas avoir plus de 6 dés. Hein.
Bah maintenant, on sait jusqu'où.
Et on peut éventuellement un peu tirer un peu sur les phrases pour essayer de les faire rentrer dans le cadre. Non, mais là, ça passe à peu près. Voilà, faut toujours un petit peu négocier. Quand on arrive à notre pool de dés qui est constitué, eh bien, tout simplement, on jette notre série de dés de 12 et on n'a que 3 résultats qui sont possibles sur chaque dé. De 1 à 12, on va avoir un dé de puissance. De 1 à 2, un dé de sacrifice.
Les résultats. T'as dit de 1 à 12.
De 11 à 12.
Ah,
de 1 à 12.
Et puis après, en fait, donc ça fait triple effet.
Si le dé tombe de la table, ça.
De 11 à 12, donc c'est un dé de puissance. De 1 à 2, un dé de sacrifice. Et tous les autres résultats sont des dés de souffrance. Alors, attention, ça devient technique. Un dé de sacrifice tue le reste de la main. Donc si j'ai un seul résultat de sacrifice, si j'ai un seul 1 ou 2.
Tes 5 autres dés, ils sont
là. Tes 5 autres dés, on s'en fout. Si. J'ai plusieurs dés de sacrifice, ils contaminent la main. C'est-à-dire qu'admettons, j'ai jeté 4 dés, j'ai fait 2 résultats de sacrifice, les 4 dés se transforment en dés de sacrifice. Donc j'ai 4 dés de sacrifice à utiliser.
Oh putain.
Alors, maintenant, c'est tout. Donc ça se lit quand même assez rapidement. Hein. Grosso modo, il faut se dire qu'un dé de sacrifice est plus fort qu'un dé de puissance, qui lui-même est plus fort qu'un dé de souffrance. Donc en gros, si j'ai réussi à avoir un dé de sacrifice ou de puissance, mon objectif est remporté. Jusqu'ici, tout va bien. Oh là, il y en a. Oh là là. Se tiennent la tête, non, les autres sombrent dans l'alcool.
Mais plus je bois, mieux je comprends. C'est super son jeu là.
Putain, borgne, je suis pas sûr de tout comprendre. Hein.
Mais si. Donc voilà, du moment que t'as du sacrifice ou de la puissance, ton objectif est remporté.
D'accord.
Mais
la souffrance, non.
Non, c'est pas terrible, ça suffit pas vraiment.
Donc il faut faire soit 1, soit 11, c'est ça
soit, bah, 1, 2, 1, 2, 2 11 ou 12.
1, 2, 11, 12.
Voilà,
oui.
Mais en fait, de préférence, 11, 12.
C'est toujours le meilleur.
Ouais, la puissance en fait. Voilà. C'est vrai que c'est quand même un peu technique.
Ouais, non mais.
Faut faire des dessins en fait. C'est très simple sur le papier, mais c'est vrai qu'à expliquer oralement, il y a toujours un petit temps. On s'intéresse après de nouveau au dé, une fois qu'on a défini qui gagne en gros, parce que la personne qui a le plus de résultats de sacrifice ou ensuite celui de puissance, on va dire. Ou ensuite celui de souffrance, à la limite j'ai 3 résultats de souffrance et toi tu n'en as qu'un, bah c'est moi qui remporte l'objectif quand même. Je souffre plus que toi donc je gagne.
Ah d'accord, faut être le... Voilà, si on a les mêmes types de dés, c'est celui qu'on a le plus qui gagne.
Ouais.
D'accord. Et tu vas prendre cher. Hein.
Oui, c'est ça. En fait, il y aura un prix. Tu gagnes, mais avec un prix.
D'accord.
On s'intéressera ensuite de nouveau aux dés, parce que la puissance va faire oublier la souffrance. On va écarter des dés de souffrance. Et la souffrance et la puissance vont être rationnées. C'est-à-dire que on va avoir un maximum de dés égal au nombre de joueurs dans le camp. On s'est allié à deux, il n'y aura pas plus de 2 jets de souffrance et compagnie. Parce qu'après, en fait, on va partager la souffrance.
Ah là, je crois que tu m'as perdu là.
Oui. Bon, alors, on va revenir juste à la version de base, avec des résultats de sacrifice, de puissance et de souffrance.
Voilà. Oui, voilà, c'est bien ça. Ça va être mieux.
Ces dés, en fait, on va les rejeter, ce qui va nous donner donc un panel de thèmes sur lesquels on va pouvoir broder des nouvelles phrases.
La fameuse table, des thèmes. Avec le lancer de 1 à 12, où on avait fait société...
Voilà, ça, folie, mémoire, corruption, etc.
Voilà, tout ça.
On rejette un nombre de dés un nombre de dés égal en fait à peu près à ce qu'on achetait, mais comme j'ai dit, bon, on enlève un petit peu, on épargne ce détail là, pour obtenir des thèmes en rapport avec la puissance et la souffrance. Le sacrifice en fait il n'a pas de thème, puisqu'il consiste à sacrifier des phrases qu'on avait déjà.
Aïe.
Et oui, donc elles ne disparaissent pas, on les raye joliment. Donc, voilà. Et un joueur peut aussi donner ses dés aux autres. Mais à moins qu'ils aient été alliés pendant le conflit, l'autre est libre de refuser. Donc par exemple, tout à l'heure, Cobal qui s'est allié avec moi pour traverser la forêt, bon, bah, je peux très bien lui dire, bah, écoute, phrase de souffrance nature, je pense que l'ours t'a mangé, mais je te refourgue allègrement ce dé de souffrance pour que tu en fasses ce que tu veux, et que ta phrase va donc automatiquement devoir décrire quelque chose lié à la souffrance. A l'inverse, je me réserverai mon petit dé de pouvoir qui dira qu'en fait, bah, je suis mon hurlement a effrayé les bêtes, y compris l'ours.
Il garde le beau rôle, quoi.
Voilà, c'est ça. Et je laisse la souffrance à l'autre parce que je suis un salaud.
Oui, c'est ça.
Moi, j'ai été affreusement mordu par l'ours. Et, ouais.
Et à l'inverse, si à un moment donné j'ai envie de refaire mon dé à Michael et que Michael dit ouais, ok, c'est bon, je veux bien prendre ton dé de souffrance.
Je veux bien mourir.
Ouais, non, mais là, je dis que t'es un salaud garou.
Mais non, tu peux être un martyr. Comme ça.
Ouais, non, mais toi, t'es un salaud garou.
Ouais. C'est-à-dire que ça ne marche qu'à la pleine lune. Voilà, donc ces dés en fait on les redispatch. Donc en résumé, sacrifice, ma phrase est rayée. La puissance, ça explique comment j'ai remporté l'objectif. Et si jamais j'ai plusieurs dés de puissance, bah, j'indique d'autres conséquences favorables de cette réussite avec mes phrases. La souffrance, ça, je vais indiquer les sacrifices qui vont avoir été consentis entre guillemets pour obtenir la victoire, ou bien les raisons de l'échec, ou même ses conséquences. Voilà. Alors on n'a pas réussi à battre l'ours, du coup.
Chichi.
Chichi.
Bravo.
Bon, ça va, c'est pas si compliqué que ça pour le moment.
Non, ça va.
On a dit ça tient.
Ouais, non, là, ça va, ça va.
Comment ça pour le moment?
Non, il y a des règles avancées dans le jeu. Il y en a deux, donc ça va aller. Il y a la notion de pouvoir. Quand on gagne, on peut gagner un pouvoir en fait quand on accepte de perdre un conflit qu'on aurait dû gagner. Parce qu'on avait assez de dés de sacrifice. On a dit le dé de sacrifice, si je gagne, mais je vais devoir faire
enlever
disparaître mes phrases.
Enlever une phrase.
Voilà. Mettons que là, on réussit, j'avais deux phrases, on réussit le jet de dés avec Cobal, mais j'ai deux dés de sacrifice. Du coup, si je dois les utiliser, à moins de les répartir, Cobal n'ayant qu'une phrase, s'il lui met un dé, il meurt, et moi si je prends les deux dés, je meurs. Donc je peux dire, bah, en fait, j'accepte de perdre le conflit. Et en fait, au lieu d'avoir des dés de sacrifice, je vais gagner un dé de pouvoir. Et donc un dé de pouvoir, mais un peu ambiance pouvoir magique, quoi.
Mm-hmm.
Tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, lié à l'égrégore, il y a 144 exemples dans le jeu. S'il y en a qui ne sont pas
c'est
inspirés.
C'est précis.
Bah, c'est un dé 12 x 12. Enfin, oui. Voilà. Qui sont là à titre indicatif, hein, c'est pas une liste exhaustive, mais qui donnent des exemples de qu'est-ce que pourrait être un pouvoir magique. Chaque individu ne peut en avoir qu'un. Mais par exemple, hein, si ultérieurement je me retrouve comme ça avec du pouvoir, je peux très bien le refiler et filer un pouvoir magique aussi à Copan. Parce qu'il est
non. Non, tu lui files la souffrance à lui.
Uniquement.
Exclusivement.
Un pouvoir aura notamment comme effet, si on l'utilise dans un conflit, on va pouvoir transformer des dés autres que les 1 et 2 en dés de sacrifice. Genre, je m'aperçois que j'ai fait un jet de dés complètement pourrave, mais j'ai fait 3 fois un résultat 3. Et bah, je veux dire, ok, bah, je transforme les 3 en dé de sacrifice, donc je paye bien évidemment le prix, mais ça me permet de remporter mon conflit. Voilà, voilà.
D'accord.
On aura aussi des règles de conflit de masse qui vont être simplement, grosso modo, que tout le monde est dans un seul conflit, et donc comment est-ce qu'on ordonne un petit peu la succession de conflits simples ou de duels avec alliance, ou sans alliance, pardon. Voilà, dans le cadre d'un conflit de masse. Voilà, tout ça donc ça tient en 30 pages. Là ça vous paraît peut-être un peu compliqué parce qu'effectivement sans
le lire.
Voilà, c'est ça, sans l'avoir sous les yeux. Mais comme dit, hein, ça tient véritablement sur une page et il n'y a pas besoin de... On a deux pages de jeu, Nano Florenza, c'est un mémo de règles, et de l'autre côté le tableau des thèmes qui va servir pendant toute la partie.
Mm-hmm.
Et ça suffit. Dans le jeu après on aura un exemple de partie de 46 pages, donc justement on se dit on n'a pas bien compris là, et on relit les 46 pages qui vont en fait être une explication progressive des règles, la création, le premier tour, tout ce que je viens de dire là, en fait il y a 46 pages
ça,
pour vous l'expliquer en détail de manière progressive, adagio, moderato, etc. Les conseils de jeu qui vont eux aussi être exposés de manière progressive sur une trentaine de pages, qui peuvent à mon avis tout à fait servir de base de réflexion pour d'autres story games, toujours pareil, où on a un MJ de type guide animateur, donc un Nine World et X jeux dont je vous ai déjà parlé. On aura un très grand nombre de pistes expérimentales. Comment jouer seul, comment jouer avec deux tables,
comment jouer avec un chien,
jouer avec des personnages qui sont distants, comment faire l'histoire à l'envers, commencer dans l'histoire dans le passé, comment jouer un monstre. Il y a vraiment toute une foultitude, comme je l'avais dit tout à l'heure, hein. En fait on a 36 pages de règles et pour moi le reste ce sont des idées et des possibilités de modulation pour faire ce que pour vous approprier le jeu sous la forme qui vous intéresse, quoi. Voilà, on a encore après des références ludiques, littéraires, musicales, parce que bon, Thomas Munier est aussi connu pour le fameux musique sombre pour des jeux de rôle sombres. On aura aussi des théâtres qui sont en fait des settings suggérés, plus ou moins détaillés, déjà établis. Donc déjà avec un peu des personnes, des PNJ, avec un peu des enjeux, ça peut permettre de cadrer des jeux dès le démarrage.
Ça permet à ceux qui ne sentent pas ou que les joueurs vont peut-être pas être trop dans le trip de créer la chose, de pouvoir plonger directement dans du jeu, et puis pour tester rapidement et voir à peu près à quoi ça ressemble, ça peut être une bonne solution aussi.
Tout à fait. Et pour conclure le jeu, on aura pour conclure l'ouvrage, on aura sur 80 pages en fait le background, c'est l'historique et comment fonctionne la société en l'état actuel. Voilà, ça c'est des éléments qu'on avait aussi dans Millevaux. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. Je ne l'ai pas encore fait jouer, bien évidemment. J'ai discuté hier avec quelqu'un qui, avec Arjuna, qui le fait jouer, qui l'a fait jouer de multiples occasions en convention, parce qu'évidemment il était dans le bêta testeur.
Okay.
Et qui ça se passait très bien, même avec des publics a priori orientés Donjons et Dragons. Et là, je pose une question, attention, enchaînement de la mort.
non, c'est trop tôt.
Non, c'était pas maintenant.
Non, car maintenant, c'est tout de même
le moment que vous attendez tous.
Que vous attendez tous, c'est-à-dire la rubrique Star Wars de Michael.
il va lui falloir un jingle là.
Je pense
qu'il
faut. Ouais, c'est ça.
En fait,
la bulle de Cyril.
Mais non, la musique de Sankuka est là justement. Non, justement. Non, moi je pense qu'il m'a trouvé les. Il va me trouver une musique cale dans en très peu de temps, ça va fonctionner. Donc oui, j'ai décidé de poursuivre sur ma lancée de Star Wars pour être certain que après le premier jeu qui s'appelle Edge of Empire, nous allons maintenant passer au deuxième jeu qui s'appelle Edge of Rebellion, qui est le deuxième jeu donc de la série. Et donc introduction, Cal.
Voilà ton jingle.
Mais c'est trop sympa, merci Cal.
Non, je préférerais éviter les morceaux sous licence.
D'accord, ok. Bon.
Non, mais
bon,
là, on le fait à la bouche. Hein.
Oui, c'est parce que je fais beatbox en fait.
La qualité sonore ne serait pas la même, c'est évidemment. Donc,
c'est
je vais vous parler donc du second jeu de Star Wars dont la boîte d'introduction vient de sortir. Le livre de base va suivre dans quelques temps. Donc c'est un petit peu pour refaire une présentation de la chose, que vous fassiez une idée de ce que c'est. Donc la boîte d'introduction de Edge of Rebellion, elle se présente exactement stricto sensu avec le même type de matériel qu'on trouvait dans celle de Edge of Empire. À savoir une boîte pleine
vide.
De vide, voilà, une boîte plus grosse que ce que nécessaire pour contenir tout ce qu'il y a dedans, mais il y a quand même pas mal de matos, parce que comme d'habitude, il y a un petit livret d'introduction de 4 pages, il y a un livret d'aventure de 32 pages, un livret de règles de 48 pages, un poster recto verso avec tout plein de trucs, ça va s'expliquer dans le scénario dont je vais vous parler, et des prêts tirés, un set de dés et une planche de token, tout ça pour 40€, avec de superbes illustrations à l'intérieur. Bon, ça c'est le côté de la forme, voilà, expédié.
Le côté de la forme et non pas le côté de la force.
Exact.
Oh.
Donc tous nos jingles sont faits à la main parce qu'on a toujours pas la boîte à prout.
Alors au niveau du fond, cette boîte d'introduction, comme la boîte d'introduction de Edge of Empire, elle se veut être une sorte de boîte rouge de D&D. Donc vous avez tout le matériel qui se trouve à l'intérieur de la boîte pour pouvoir apprendre à jouer, parce qu'il y a une approche assez pédagogique. On attaque non pas en lisant des règles, on attaque directement en jouant le scénario, et le livret de règles qui est fourni avec, il va vous servir, je dirais, après. Parce que vraiment, vous allez jouer tout le scénario, et c'est vraiment pour faire jouer la suite de ce scénario que vous allez utiliser le livret de règles. Le but du jeu, c'est que vous puissiez vous ouvrir la boîte, et en l'espace d'un petit quart d'heure, vous pouvez vous lancer directement dans le jeu.
C'est exactement le même principe que...
C'est stricto sensu la même chose, avec des prêts tirés dont les backgrounds ont été... sont connectés les uns avec les autres. Comme on joue dans la rébellion, vous avez donc une équipe composée d'un soldat, d'un as dans le sens pilote, hein. Un espion et un ingénieur, et vous pouvez télécharger
de stockage ou...
et vous pouvez télécharger sur le net un commandant et un diplomate en plus. Voilà, donc ça c'est pour les personnages. Comme dans la boîte d'introduction, au milieu du scénario vous aurez une évolution à faire, donc choisir une petite un petit pouvoir en plus, un petit talent, quelque chose. Et en fin de scénario, évidemment, vous aurez aussi des XP. Et pour le reste, les règles par rapport au livre de base qui suivra, elles sont suffisantes, simplifiées, par rapport au livre de base, mais au final, en fait, quand le passage de la boîte d'introduction au livre de base est vraiment très très simple. Voilà, donc ça, c'est, ça fait, je trouve, une bonne courbe de progression. Vous êtes au milieu de l'escalier et quand vous arriverez au livre de base, vous serez en haut. Donc voilà, c'est pour vous dire. Le scénario en lui-même est assez linéaire, comme ça l'était d'ailleurs dans la boîte d'introduction de Edge of Empire. Alors, pour vous dire, vous êtes une équipe de rebelles qui doivent aller prendre une station secrète qui a été montée par un Moff. Pour Moff Tarkin, tout ça, ça vous rappelle.
Oui, pas de problème. Pour avec les mouchettes.
Pour aller espionner. Excellent.
C'est le nouveau jingle rire.
Voilà, c'est ça. Donc, cette station secrète montée par un Moff, elle a été montée par un Moff sur une planète de jungle qui appartient à l'Empire, qui a été envahie par l'Empire, pour espionner un amiral, parce que ce Moff, il y a un amiral qui lui fait un petit peu de l'ombre et il voulait savoir un peu tout ce qu'il prépare pour pouvoir mieux agir. Et donc les joueurs interviennent là-dedans et leur but c'est de s'infiltrer, de s'occuper de l'opposition, de éventuellement négocier et surtout empêcher toute forme de retraite possible de ces impériaux qui sont dans cette base secrète. Ils doivent la prendre quoi qu'il arrive et ils doivent, s'il le faut, rattraper les éventuels fuyards qu'il peut y avoir dans le truc. Sachant que c'est une base un petit peu comme vous pourrez voir dans le Retour du Jedi, hein, c'est un peu l'idée, cette petite base. Un truc assez petit en plein milieu de la jungle. Et c'est des gens qui utilisent quoi ? Ils ont une navette type lambda.
Ah,
donc
comme sur la lune d'Endor, tu veux dire ?
Exactement.
D'accord.
Sauf qu'elle est au niveau du sol, quoi. Quand, voilà. Ils utilisent des bipodes, ils utilisent des motojets, et puis ils utilisent une navette de type lambda. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le scénario. Ça s'appelle. C'est un scénario qui fonctionne très, très bien. Qui commence comme d'habitude in media res. Vous apprêtez à rentrer dans la base. Il y a pas mal de choses à faire, c'est important, comme le but du jeu c'est d'infiltrer la station, d'en prendre possession. Évidemment, il faut aussi que les joueurs pensent à pas trop déconner, du genre à tout dégommer, parce que le matériel qui va rester intact à l'intérieur, c'est du matériel qu'ils vont utiliser.
C'est gratuit.
Voilà, donc c'est intéressant. Et justement, en parlant de gratuit, merci pour la passerelle, la transition. Après, derrière ce scénario-là, qui joue donc en une session de jeu, hein, très rapidement, même avec mes boulets.
Les pauvres, on croirait vraiment que, tu sais, qu'ils sont vraiment teubés quand même.
Non, ils sont pas du tout teubés. Ils prennent juste leur temps, ils ont raison.
Ouais, alors voilà,
ils veulent jamais écarter la moindre possibilité, donc du coup, ils vont jusqu'au bout.
Ouais, ils ont peur de se faire couillonner par un MJ, quoi.
C'est ça, peut-être. Mmh. Et donc, derrière ça, vous pouvez télécharger une mini-campagne, comme c'était le cas pour Edge of Empire. Une mini-campagne de 46 pages. Qui s'appelle Opération Shadow Point. Et là, justement, c'est la suite logique de ce scénario. Vous venez de prendre possession de cette station. Et là, pour le coup, on vous propose une mini-campagne, donc description de la région avec les différents lieux importants, et quelque chose de beaucoup plus ouvert d'un coup. Vous étiez sur un scénario hyper linéaire, et là, en fait, on vous présente, l'état des lieux, un peu comment ça se passe. Et à partir de là, vous avez plein de petites des sources de scénarios possibles que les joueurs vont explorer ou pas. Du genre, si, je sais pas, au hasard, ils trouvaient un village au fin fond de la jungle, ou au hasard d'une mission de reconnaissance, il pourrait se passer des choses. On parle de chevaucheurs de bêtes ailées dans cette région-là. S'ils devaient les croiser, un jour il y a une mission de reconnaissance de l'Empire qui se rapproche d'eux. Qu'est-ce qu'il ferait, etc., etc. Donc, en fait, vraiment, le scénario en lui-même vous présente toute une succession d'amorces, alors détaillées, hein, et on vous dit exactement ce qui pourrait s'y passer et tout ça, mais on vous donne les tenants et les aboutissants, et à chaque fois, donc, il y a une suite telle que ça devrait se faire, en prévoyant des solutions, mais vous avez de quoi pouvoir vraiment meubler complètement et puis vous affranchir des choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de groupes différents que vous pourrez rencontrer, et on vous parle selon la façon dont ils vont les aborder, évidemment, ça va changer la donne, parce qu'ils peuvent vouloir se faire passer pour des impériaux et tenir vraiment la base, sachant que les impériaux locaux sont pas au courant qu'il y a une base. Oui, c'est une base secrète, vu que c'est une base pour espionner un amiral. Et en même temps, donc il y a ces différentes personnes qui sont représentées, différents groupes qui sont représentés. À côté de ça, ils ont besoin de pouvoir faire vivre cette station, parce que cette station, il y a la station en elle-même, et il y a tout le truc de réception, de communication de l'Empire, qui doit être maintenu, qui doit rester en état, parce que ça alimente un certain nombre d'informations qui vont pouvoir donner à l'Alliance Rebelle. Bref, imaginons qu'évidemment ils ont besoin de ravitaillement, il va falloir qu'ils aillent en ville pour pouvoir se ravitailler, qui est une ville qui est tenue par l'Empire. Elle a été envahie par l'Empire, elle est tenue. Bref, ils vont vraiment devoir... à partir de là, c'est ultra ouvert pour le MJ, pour les joueurs. Et c'est ça que je trouve super intéressant. Et si je devais faire la comparaison de cette mini-campagne par rapport à la mini-campagne qu'il y avait pour Edge of Empire, elle est vraiment beaucoup plus intéressante parce que beaucoup plus ouverte. Et on sait évidemment...
Elle a l'air beaucoup plus complexe surtout.
Oui, elle est beaucoup plus complexe parce qu'il y a évidemment un équilibre particulier qui aura des conséquences. En fait, chaque chose qui vont se passer auront des conséquences sur la fin. Parce qu'à la fin, évidemment, il y a un moment, le MOF, il va apprendre que sa station elle a été prise et il va vouloir essayer de la reprendre. Et en fait, en fonction de comment ils vont jouer toutes les choses et toutes les cartes qu'ils vont jouer autour d'eux, parce qu'il y a plein de cartes à jouer, et ben, ça aura des conséquences pour le MOF par rapport à la puissance de feu qu'il aura à l'arrivée. Donc ça, j'ai trouvé ça très très bienvenu, c'est bien fichu, c'est super intéressant, et à la fin de cette mini-campagne, on vous propose évidemment quelques amorces supplémentaires pour pouvoir jouer la suite, c'est-à-dire une fois que le MOF sera arrivé, imaginons, on ose espérer que les joueurs vont réussir à lui mettre une bonne rouste, sachant que je sais pas, il pourrait très bien arriver avec un quadripode, par exemple, le monsieur quand même, hein, au hasard. C'est, en tout cas, sur la couve de la boîte d'introduction de Edge of Rebellion, on voit un quadripode.
Cette idée,
on voit un quadripode. Hein,
et donc, bien, ils fournissent le plan à l'échelle pour les figues, mais c'est pas du tout.
Mais vous faites ce que vous voulez.
Voilà, mais vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Donc moi, je trouve que cette mini campagne, c'est certainement ce que j'ai le plus intéressant jusque là sur tous les jeux Star Wars jusqu'ici.
Il fallait commencer par celui-là.
Voilà. mais c'est passé. Mais de toute façon, c'est censé être le jeu qui est le plus accrocheur parce que c'est celui qui renoue avec les anciens jeux. Tu joues dans la rébellion. Voilà. Et ce que je trouve intéressant ce jeu-là, parce que c'est vraiment pour moi un jeu passerelle, c'est qu'en imaginant que vous ayez joué à Edge of Empire un certain temps, évidemment, la passerelle entre les deux jeux, elle est logique. Vous jouiez un contrebandier, imaginons qu'il va rejoindre l'Alliance Rebelle, etc. Ou imaginons que vous allez jouer un PNJ, vous allez jouer un PJ qui va être un droïde qui a 200 ans d'âge et il va contenir des informations comme par hasard qui vont servir pour... Bref,
comme
on peut
de
faire...
par hasard.
Exactement. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que justement les jeux sont complètement interconnectés. Évidemment, du coup, le jeu se passe pendant la même période, après la bataille de Yavin et la destruction de la première étoile noire. Donc tout est fait pour que ça fonctionne dans le bon sens. Sachant que pour information, le troisième jeu s'appellera Force and Destiny. Et
ah ouais.
On ose imaginer qu'on va y jouer des Jedi. Voilà, donc ça c'est le truc. Important, donc, comme dans la boîte d'introduction de Edge of Empire, la carte, le poster qui est proposé dans la boîte d'introduction, vous propose évidemment une carte de la jungle locale.
C'est Luke Skywalker.
Il vous propose le plan de la navette Tidarium. Il vous propose.
Ah, il y a un plan de navette aussi ?
Et il vous propose le plan de votre base, parce que à la fin du scénario d'introduction, vous avez votre base.
Ça c'est classe.
Voilà, donc c'est quelque chose que vous allez utiliser tout du long. Derrière, vous avez comme d'habitude des tokens que vous allez utiliser. C'est ça qui est bien, c'est que ça permet, avec la boîte d'introduction, de jouer et le scénario de la boîte d'introduction et derrière la mini-campagne.
Justement, je m'interrogeais par rapport à la boîte précédente qui fournissait le vaisseau spatial. Je me demandais ce que ça pouvait fournir là. Et en fait, t'as carrément
la base. La base, et comme ça tourne autour. Mais le scénario et de Edge of Empire, c'était tu te barrais avec un vaisseau. C'était logique que t'aies le plan du vaisseau. Et ben là, tu t'empares d'une base. Donc c'est logique que t'as le plan de ta base, qui s'appelle Whisper Base. Donc voilà. Donc, en regardant après, si je vais un petit peu plus loin dans la logique de la chose. En lisant cette boîte d'introduction et la mini-campagne, on peut déjà voir en filigrane ce qu'on va trouver dans le livre de base de Age of Rebellion. À mon avis, quoi, vu de ce que j'en ai vu...
Alors, tu nous fais le pronostic.
Voilà, le pronostic. Je pense que, déjà et d'une, je ne suis pas certain que ça vaut le coup de faire un livre complet sur le sujet parce qu'à mon avis, il y aura énormément de redites. Certes, il y aura du background sur la rébellion, mais c'est la même période de jeu. Donc, la description de la galaxie à cette époque-là, elle va forcément être la même. On utilise les mêmes règles. La seule différence que j'ai vue pour l'instant, c'est qu'à la place des obligations, vous aurez des devoirs. Alors, les devoirs, les obligations, c'était du genre, t'avais une dette auprès d'un HUT, des choses comme ça. Là, les devoirs, ça va être des devoirs par rapport à l'Alliance. Donc ça va être, par exemple, toi tu es plutôt dans la contre-intelligence, tu vas être plutôt dans le support politique, dans le recrutement, le sabotage. En fait, ça va être des choses que tu vas mettre en jeu. Comme d'habitude, tu lances les dés avant en début de partie et selon ce qu'on tire, si ça correspond à un des devoirs des joueurs, il va intervenir dans la partie. Donc ça, c'est une des différences. Les talents, bon, il y aura des nouveaux talents, évidemment. Il y a des nouvelles carrières. Si on se base sur ce qui s'est passé dans la boîte d'idées à l'introduction, tu as l'as, le commandant, le diplomate, l'espion, l'ingénieur et le soldat. C'est pas impossible qu'il y ait encore une autre carrière, à mon avis. Sinon, au niveau des races qu'on va pouvoir jouer, en dehors des habituels qu'on avait déjà, qui sont le botan, le droïde et l'humain, vous allez avoir le Duros, le Mont Calamari, le Gran, l'Itorien et le Sulustin. Donc des races en plus, voilà. Mais pour moi, de ce que je vois là, si vous voulez, ouais, quoi. Si vous ne possédez pas Edge of Empire, déjà, évidemment que c'est intéressant d'avoir un livre le plus complet possible. Mais si vous possédez déjà le premier jeu de la gamme, je pense que vous allez. La lecture va être plus rapide. Tu vois ce que je veux dire.
Et puis, c'est si tu veux vraiment jouer un Sulustin, par exemple.
Voilà, ouais, ou un Mont Calamari.
Oui, voilà. Hein,
parce que bon, c'est quand même encore pire au niveau de la classe. Puis t'as intérêt à faire le roleplay qui va avec. Donc, voilà.
T'as pas le même jeu d'expression, en fait.
Voilà. Ouais, d'ailleurs, tu te demandes comment il pouvait prononcer son nom, Akbar. Tu te demandes comment le Mont Calamari pourrait prononcer.
It's a trap!
It's a trap! Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire pour la traduction, en fait, la traduction en français? À ma connaissance, la boîte d'introduction de Edge of Rebellion ne sera pas traduite. Mais le livre de base, normalement, devrait sortir pour Noël, si tout se passe dans le bon ordre. Donc, du coup, vu que le livre de base en anglais va sortir, je pense, au mois de juin ou plus tard au mois de juillet, voilà, vous avez 6 mois à attendre.
Est-ce qu'on aura le scénario
gratuit
Alors,
genre en PDF, tu vois, il y a moyen.
À mon avis,
t'es trop habitué au jeu de Callisto, toi. Maintenant, tout est gratuit. C'est,
non,
c'est
non, mais
fête.
Il l'avait traduit. Le scénario, la mini campagne qui faisait suite à la boîte d'introduction de Edge of Empire, elle avait été traduite en français gratuitement, disponible sur le site.
Le
Hut
al Bralon.
Ouais, le Hut al Bralon. Voilà, c'est ça.
J'ose
espérer et je serais surpris que l'opération Shadowpoint ne soit pas traduite, mais on verra. Je me renseignerai, je tâcherai de vous répondre la prochaine. Voilà, donc on verra. Voilà pour Star Wars Age of Rebellion.
J'avais juste une question, c'est est-ce que les deux jeux au niveau des règles, etc., c'est compatible, un peu comme DD4 serait compatible avec DD5 par exemple.
Alors, pour répondre à ta première question, donc les deux jeux sont complètement compatibles. Il faut savoir aussi d'ailleurs, pour ceux qui avaient acheté la bêta de Age of Rebellion, qu'il y a un autre scénario dedans aussi qui est différent et qui sera différent de celui qui est dans le livre de base, qui est d'ailleurs un scénario assez sympa. Tu veux donc qu'on parle de DD5, c'est
oui,
ça.
Je sais pas pourquoi l'idée me venait comme
ouais,
ça.
Ouais, c'est sympa.
Sinon,
explique-nous, Cobal, pourquoi.
Je casse juste en un instant aussi que du coup, cet été, à peu près quand va sortir le livre de base, on va aussi avoir la version en arbre mort de Firefly, la dernière version qui va sortir.
Ah oui, exact.
Ouais.
Allez,
ouais.
Tu t'en occuperas de nous parler de ça ?
Bah, j'envisage de la commander, oui.
Ah, cool.
Voilà,
ah, bah, c'est cool, j'ai bien envie d'avoir un avis sur le sujet.
Hop,
en plus, encore du Cortex Plus, cool.
Oui, donc pour revenir à DD, moi j'ai juste vu une news qui parlait du Starter Kit qui allait être gratuit. Et donc, du coup, les.
Non. Le Starter Set, qui est la boîte d'introduction DD Next, donc DD 5,
oui.
Ne sera pas gratuite, elle sera payante. Ah, mais bon. Il y aura un PDF de DD classique. Qui seront les règles équivalentes de la Rules Encyclopédia qui existait à D&D jadis, qui elle sera gratuite en PDF.
Ah.
Mais le Starter Set, qui est la boîte rouge en fait, ne sera payante et elle sort en juillet. C'est le premier produit D&D 5 officiel qui sortira, et je crois que c'est mi-juillet.
Et du coup, on s'interroge, qui va le traduire en français ?
Alors, je pense qu'on. Parce que. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions sur le sujet.
Moi je suis dispo.
Ayant quelques expériences de différentes éditions de Donjons et Dragons 3, 3.5, 4, je vous dirais qu'à mon avis, il faut plutôt raisonner d'abord à qui ne peut pas l'avoir. Si tant est que la licence s'ouvre vers la France, ce qui va arriver, ce qui n'est pas encore le cas, les gens ne peuvent pas encore candidater en France pour pouvoir avoir la 5e édition en français. Mais on va d'abord se mettre à la place d'Hasbro une minute. Hasbro, donc, c'est une boîte qui fabrique énormément de choses et qui est censée être un grand du monde entier dans le jouet et dans le jeu. Et ce Hasbro a des concurrents, et il a des concurrents en France. Si je dois en citer plusieurs, je vais commencer par Asmodée, qui est un concurrent à la fois dans le jeu de façon grande largeur. Donc, de ce point de vue-là, si j'étais à la place d'Hasbro et que des gens candidataient pour la DD5, évidemment, je ne la donnerais pas à Asmodée parce que Asmodée est un de mes concurrents. Donc, je ne vais pas commencer à leur faire gagner de l'argent. Le deuxième groupe où je me dirais « est-ce que j'ai vraiment intérêt ?» Il y a des gens en France qui publient par exemple Pathfinder. Pathfinder qui est le concurrent direct de Donjon aux États-Unis. Donc pourquoi je donnerais la licence, même si en termes de taille de société, ils ne sont pas concurrents réellement parce qu'on n'est pas du tout dans le même niveau de économique. Pourquoi je donnerais Pathfinder, aux gens qui ont Pathfinder, DD5. Donc théoriquement, Black Book ne devrait pas non plus l'avoir. S'ils candidatent, ils ont peu de chances de l'avoir. Après, il faut rappeler autre chose, c'est que la licence de D&D, quelle que soit l'édition, elle coûte cher. Mmh. Et elle s'accompagne d'un certain nombre d'obligations, qui va être l'obligation évidemment de publier à un rythme particulier, donc sortir beaucoup de produits, ce qui coûte beaucoup d'argent. La licence en elle-même, déjà, pour pouvoir l'avoir, ça coûte beaucoup d'argent. Et souvent, on nous demande d'avoir un magazine, c'est arrivé par le passé, qui demandait comme condition d'avoir un magazine en plus. Wow. Et oui, pour soutenir le produit. Donc ça, c'est un petit peu délicat.
Et t'as pas aussi une histoire d'un tirage minimum
Alors, les tirages minimum, bah oui et non. Oui, si, c'est quand ils donnent pas vraiment les tirages exacts, mais évidemment, s'ils sont face à des offres, c'est le plus offrant qui gagnera. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, vu l'argent qu'il y a à sortir et vu le schéma économique qu'il y a, il y a peu de gens qui peuvent l'avoir. Et à mon avis, la seule société en France, techniquement parlant, qui devrait pouvoir candidater et avoir une chance de l'avoir, c'est Sans Détour. Je vois personne d'autre en France. Évidemment, des sociétés comme 7ème Cercle, comme Edge, sont, mais Edge aussi, c'est un concurrent. Ils ont tout Fantasy Flight. Fantasy Flight, un concurrent d'Hasbro aux États-Unis sur les jeux. Ils ne vont pas donner la licence à Edge alors qu'ils sont concurrents. Ça serait complètement aberrant. Ils ont en plus Warhammer. Ils ont Warhammer et ils ont Star Wars. Ils ont... Donc, ils vont pas... Edge, pour moi aussi, est disqualifié. Mmh. Même si en termes de taille, c'est... Donc pour moi, en fait, les seules boîtes qui peuvent avoir une chance, c'est les boîtes qui sont à la fois éditeurs et distributeurs. C'est-à-dire que indépendamment du travail d'édition, ils gagnent de l'argent par ailleurs. Donc Asmodée remplissait ce critère-là, Edge remplissait ce critère-là, et Sans Détour le remplit. Sauf que Sans Détour, voilà, le remplit dans le sens où ils n'ont pas de produit concurrent direct de donjon. Ils ont une taille économique qui est assez conséquente. Et voilà, donc moi, pour moi, je n'imagine guère que Sans Détour, pour pouvoir avoir une chance d'avoir la cinquième édition de Donjon.
Et avoir les reins assez solides pour assurer un suivi.
Exactement. Après, il faut que la licence, ils la proposent et qu'on ne sait jamais. Quoi. J'imagine pas Hasbro le faire eux-mêmes en France. Ils l'ont fait pour la 3.0 au début. Ils l'ont édité eux-mêmes, Donjon 3, la toute première mouture. Et j'imagine pas qu'ils se relanceront dans un truc comme ça. Ça serait trop hasardeux, un investissement trop important pour un retour sur investissement qui serait réduit. Donc, à mon avis, voilà, si on a une chance d'avoir D&D en France, à un moment ou un autre, je vois guère que Sans Détour pour l'avoir, même si, voilà, il y a peut-être, en effet, 7ème Cercle se candidatera peut-être, Origame qui fait Shan candidatera peut-être, il y a d'autres boîtes qui vont peut-être candidater, je sais pas, Agathe, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, mais pour moi, les seuls qui ont une chance de pouvoir aboutir vis-à-vis d'Hasbro, je pense que ce sera plutôt Sans Détour.
Voilà. Ok, très bien.
Merci. Voilà, ne vous endormez pas, les gars.
Non, non.
Bah non, c'était très bien.
C'était
intéressant.
C'était très plein de suspense.
Plein de suspense. tu as fini de dorloter mon ours.
Attends, vas-y. Il y a quelque chose. Maintenant, on va donner souvent dans les bruitages, c'est ça.
Oui, c'est ça, oui. Ou alors le comble les fera lui-même.
Ouais, hein. Je propose que chacun vienne avec un instrument à bruitage.
Bon, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la gamme Star Wars en général, comme c'est une gamme que je suis beaucoup et je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas Star Wars que je vous inflige tout ça, mais n'hésitez pas à poser des questions, je me ferai un plaisir de répondre sur le blog de Radio Rollist.
Alors, tu penses que c'est qui gagne entre une bataille entre Chewbacca et...
Et l'empereur.
D'ailleurs, je pense qu'il y aura
Général Akbar.
L'amiral Akbar.
L'amiral Akbar, c'est vrai. C'est un amiral alors que c'est le général Solo et le général machin. Voilà. Non, mais vraiment, je te jure.
Bien. Messieurs, nous allons clôturer là.
Oui.
D'accord,
oui.
Une émission pas très sérieuse.
Oui, je crois que nous avons
Je pense qu'il va falloir instaurer un peu de rigueur là.
Je crois que nous avons été un petit peu dissipés, mais bon, c'est pas bien grave.
Ton fouet nommé Gérard devrait toujours être avec toi.
Exactement.
Oh, on n'est pas bien là, hein.
Oh, magnifique.
Alors, il faut savoir que dans un Lady Blackbird, je crois que le... Qu'est-ce que j'avais fait? Le grand pirate méchant avait la boîte de Benoît Poulvorde quand je l'ai fait. Et son second, c'était Gérard Depardieu.
Ah oui, j'ai eu des MJ comme ça. Au début, c'est drôle, après, tu pleures.
Au bout de 12 séances.
Ça dépend, c'est des personnages récurrents ou pas, quoi. Ou si c'est
le
personnage qui pète un peu. Là.
Ça pourrait être Paul Prébois, Louis de Funès. Bon, aussi.
Je me suis fait la gueule. Non, c'est pas possible.
Les imitations foireuses. Bon, bah voilà.
Je pense qu'il faudrait faire un truc spécial sur.
On va couper là.
Comment prendre des accents pourris.
Et merci à tous, salut et à la prochaine.
Et bonne soirée.